10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. On vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. On est ravis de vous accueillir dans l'air de jeu. Vous allez pouvoir jouer avec nous pour gagner des bons cadeaux. Et puis on va faire un grand retour dans le temps avec notre invité Dimitri Viglietti. Bonjour Dimitri, comment ça va? Bonjour
Claire, ça va bien.
Bonne et heureuse année aussi.
Et oui, à vous et aux auditrices, auditeurs également. Bonne année.
Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir. On va se plonger au 19e siècle. On va évoquer une page d'histoire intéressante hein, sur la mer commune, le Locle, puisque vous avez sorti en fin d'année passée, hein, en décembre 2024, Les Tribulations d'un Loclois. Il s'appelle Émile Gnem. Il est né donc dans la mer commune. Et puis, on va s'intéresser justement à tout ce qui se passait à cette époque au Locle. Alors, qui est Émile Gnem?
Oui, en fait, il a un regard il porte un regard sur sa vie dès les années 30 jusqu'en 55. Et il écrit ses souvenirs. En fait, c'est pas ses mémoires, c'est pas. Il n'y a rien d'intime, c'est un observateur de la société, en fait.
Mais c'est qui, en fait?
En fait, Émile Gnem, lui, est né en 1882 au Locle. Ses parents ont émigré du côté de Ville et de Zurich qui sont venus sur le Locle. Et puis, lui, il naît dans une famille de cinq filles et deux garçons. Et là, il va faire toute sa scolarité au Locle.
Et il fera quoi comme métier? Il a appris à cette époque, on faisait comme maintenant des apprentissages ou ça se passait comment?
Alors d'abord, ses parents le voient buraliste, lui, pas du tout. Il a pas envie de faire ça. Il se cherche comme beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent, mais déjà à l'époque, on se cherchait. Et puis en fait, il voit qu'il peut faire un apprentissage sur 2 ans. Alors c'est pas trop long, c'est 2 ans comme boulanger. Et puis, il fait son apprentissage de boulanger sur le Locle et après en Suisse à Lémanique, d'où ses parents viennent, qui lui trouvent un employeur. Et puis, de cette profession de boulanger, ça l'amènera après à la restauration et à la Croix d'Or.
Là, on voit son épouse Henriette.
Voilà, son épouse Henriette, qui, elle, vient du Vuilly, enfin Vuilly-Labroix, Villars-le-Grand, et puis, oui, ils vont vivre, en fait, après le Locle, dès 1924 jusqu'à son décès en 1972, il va vivre à Fou, et il racontera dans son livre aussi des souvenirs de Labroix et du Vuilly.
Et puis, il y avait aussi, alors, celle qui tenait les rênes de tout, c'est Katharina Gnem, la maman d'Émile.
Voilà, c'est un personnage. D'ailleurs, cette photo qu'on diffuse a été longtemps au musée d'histoire du Locle. Parce qu'on voit, c'est cette grand-maman qui est en train de tricoter. Mais c'était vraiment celle qui tenait, comme on dit, la boutique. Elle a été veuve assez rapidement. Et puis, elle a tenu seule cette croix d'or avec ses enfants qui avaient entre 12 et 18 ans.
Elle avait combien d'enfants?
Elle avait cinq filles et deux garçons. Et puis, dont Émile, voilà.
On va passer à notre premier jeu.
L'air de jeu, le défi.
Alors, le défi photo, vous allez nous envoyer des photos et vous avez jusqu'à midi moins le quart pour nous les envoyer au numéro
079-809-2020.
Et puis, le thème, vous allez nous le donner, Dimitri. C'est quoi le thème?
Alors, tout objet se rapportant, vu que le thème, la restauration, restaurant, des objets... des objets qui pourraient paraître un peu kitsch aujourd'hui, mais qui... là, on voit une vache qui était donc dans son restaurant à Fou, où on mettait, je crois, des cure-dents.
Ah, c'était pas du lait, on mettait pas du lait dedans.
Peut-être du lait aussi. Il y a même un trou dessous.
Et puis une louche aussi qui date du 19e siècle.
Voilà, aussi une louche. Alors, je ne sais pas la datation, mais c'est en rapport à son métier de restaurateur, en fait, de boulanger. Il est passé restaurateur pour la plupart. Il a fait 10 ans de boulangerie et presque 40 ans de...
Elles n'ont pas beaucoup changé, hein, les louches, hein, c'est tous les mêmes.
Alors voilà, si vous avez des objets, ça peut être aussi un livre de cuisine, par exemple, un ancien livre de cuisine. Enfin, bref, des objets en rapport avec la restauration.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Toujours avec notre invité Dimitri Viglietti pour évoquer le livre que vous avez sorti qui évoque les tribulations d'un Loclois, en l'occurrence Émile Gnem, qui est né donc dans la mère commune au 19e siècle et qui a justement, on l'a, ce fameux manuscrit que vous avez retranscrit. Comment vous l'avez eu, ce manuscrit?
Alors, ce manuscrit, c'est ma belle-maman, Liliane, qui, au décès de son grand-papa, a dit, ben moi, je ne veux pas de bibelot, de tableau, de souvenirs, mais j'aimerais ça.
Le manuscrit.
Le manuscrit. Et puis, ben voilà, ce manuscrit, eh ben, elle l'a gardé dans un tiroir. Après, elle a essayé de le remettre un peu en forme dans les années 90, mais sans en faire quoi que ce soit. Et puis, il y a une douzaine d'années, elle me dit « Ah, mais toi qui t'intéresses à l'histoire, j'ai peut-être quelque chose pour toi, lis-le. » Puis, quand j'ai lu ce manuscrit, j'ai dit « Ouh là là, ça c'est dommage de le laisser comme ça dormir dans un tiroir. Je pense que ça vaudrait la peine de pouvoir le faire connaître au-delà. » Parce que c'est pas, il n'y a rien d'intime, il n'y a rien de personnel. C'est vraiment
la vie à cette époque,
la vie au Loc, la vie en Suisse alémanique, la vie à Foux, à Fribourg, à Vevey et à Genève. Et ça va bien au-delà du Loc.
Vous avez dû faire beaucoup de recherches, j'imagine, pour évoquer ce passé.
Tout à fait. Alors, bien avant de l'éditer, j'avais déjà recherché des documents à gauche et à droite, il y a à peu près 3-4 ans. Donc, quand on fait un livre, c'est une multitude de recherches.
Et parce que vous aimez l'histoire, vous êtes historien, hein, autodidacte.
Voilà, historien autodidacte. Et de ce fait, ça m'a permis d'avoir accès à des archives, de savoir où chercher. Parce que pour faire ce livre, on a repris le manuscrit et transcrit le plus fidèlement possible ses écrits. Puis il fallait en fait ajouter un début et une fin, et mettre un peu le lecteur en phase avec cette écriture et dire qui est Émile Gnem en fait, qui est sa famille et pourquoi il l'a écrit. Et puis ça, c'est des recherches que j'ai faites aux archives du Loc, aux archives du canton et bien au-delà. J'ai été aidé par des gens super parce qu'on l'a. Voilà. Et puis ça donne ce livre qui est lu de Genève à Delémont. C'est étonnant, c'est chouette parce qu'il est encore une fois ouvert et c'est un langage direct.
Et puis on va justement un petit peu évoquer la vie au 19e siècle dans la mère commune.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, eh bien, on est en direct dans ce studio pour parler de l'histoire du Loc. Et là, on a Carmen avec nous. Bonjour Carmen.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Carmen.
Bonjour Carmen.
Bonjour Claire. Bonjour, je sais plus le nom.
Dimitri.
Voilà. Dimitri.
Bonne et heureuse année à vous, Carmen.
Oui, merci, à vous aussi.
Tout s'est bien passé, vous avez passé de belles fêtes.
Oui, tranquille, oui.
Et d'attaque pour 2025.
En pleine forme, on essaye.
Alors, c'est parfait. Vous allez jouer avec nous et voici le jeu que vous avez choisi.
L'air de jeu, le Quesaco.
Alors, je vais vous poser une question. Vous donnez trois propositions de réponse. À vous de nous donner la bonne. Vous allez jouer pour un bon d'une valeur de 50 francs. Pour du temps pour soi, c'est à Neuchâtel. Est-ce que vous êtes prête? C'est parti.
D'accord.
Qu'est-ce qu'un borborygme? Est-ce que c'est un bredouillement? Est-ce que c'est une figure géométrique? Ou est-ce que c'est un instrument de musique?
Un instrument de musique.
Dans le parler neuchâtelois, qu'est-ce qu'un guinglé? Un mauvais élève, une tirelire, un doigt de la main?
Un doigt de la main.
Qu'est-ce qu'une poulotte? Un récipient culinaire? Un geste affectif ou une poule sauvage?
Un instrument culinaire.
On va tester notre invité. Dimitri, pour vous, qu'est-ce qu'un borborygme? Un bredouillement, une figure géométrique, un instrument de musique?
Vu sa tête, c'est beau. Au hasard.
Instrument de musique.
Non, c'est un bredouillement, une parole incompréhensible. Dans le parler neuchâtelois, un guinglé, c'est quoi? Un mauvais élève, une tirelire ou un doigt de la main?
Le premier.
Un mauvais élève?
Oui.
Non, là, c'est notre joueuse, Carmen, qui avait la bonne réponse. C'est un doigt de la main, c'est l'auriculaire, celui qu'on appelle aussi le glinglin. Qu'est-ce qu'une poulotte? Alors non, ce n'est pas un récipient culinaire. C'est un geste affectif que l'on donne, par exemple, à un enfant. Le verbe pouloter, par exemple, eh bien, ce serait synonyme de dorloter. Voilà, je vais vous pouloter, les garçons. Et puis aussi, peut-être, on va pouvoir pourloter Carmen, qui, malheureusement, n'a pas gagné. Mais on vous fait confiance. Vous allez pouvoir jouer une prochaine fois avec nous, d'accord?
Pas de problème, ça joue.
Merci,
Prenez
Carmen.
Prenez soin de vous, Carmen.
D'accord.
À bientôt.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Toujours avec notre invité Dimitri Viglietti pour parler de son livre qui est basé sur le manuscrit d'Émile Gnem, un Loclois qui était boulanger, puisqu'on est en hiver, évoquant maintenant la vie au Locle et à cette époque. En hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes? Ils faisaient des batailles de boules de neige?
Alors oui, bon, on a des photos 1905-1910 au Locle où on voit des jeunes écoliers avec des boules de neige, voilà, bataille de boules de neige traditionnelle qu'on faisait à l'époque. Et puis Émile Gnem, dans son livre, évoque passablement de passage avec le sport, et notamment l'hiver. Son papa étant tonnelier, en fait, et Émile Gnem, étant nature chétive, voulait se renforcer, donc faisait passablement
de sport.
Il courait, il allait à la récréation depuis son collège jusqu'à la Combe Girard, et il revenait en courant pour se renforcer. Et puis dans le même état d'esprit, il fera du vélo à la fin du 19e siècle. Il décrit les vélos de l'époque, c'est à mourir de rire. Et ensuite, pour revenir à l'hiver, son papa étant tonnelier, Émile Gnem, curieux de tous ces sports, qu'est-ce qu'on peut faire en hiver? On lui parle qu'on peut faire du ski. Ah, du ski. Et puis en fait, on lui dit, mais ton père est tonnelier, il a les douves de tonneau. T'as pas une idée? Ah ouais, alors voilà, il va trouver son père. Puis en fait, c'est dans les premiers Loclois à faire du ski au Crévaillant et après à Pouyrel avec les douves de tonneau de son père, en fait. Et puis on voit ces photos vraiment délicieuses de sport. On est en 1898, 1899. Et la vie du Locle, il raconte aussi sa vie à l'école. Tenez-vous bien, il nous décrit qu'à ce moment-là, donc on est vers 1888-1890, les classes d'école primaire, c'était des classes de 60 élèves.
60 élèves.
Alors il disait, on n'était pas à l'école, on était parqués, mais à raison de 10 à 12 par table. Et le prof maniait le bâton pour un peu corriger les... Non, il fallait tenir en place une classe de... On n'arrive pas aujourd'hui à s'imaginer...
aujourd'hui, on n'arrive plus à maîtriser 15 élèves.
Voilà, donc,
vous imaginez, quoi.
Ah oui, on a de la peine à s'imaginer une classe avec 60 élèves. C'est quelque chose.
Et en fait, il dit bien, il faisait froid dans la classe, ils essayaient de calfeutrer les fenêtres, ils n'ouvraient jamais les fenêtres, parce qu'en fait, c'était des classes... Il y avait un petit poêle... à charbon dans le coin de la classe.
Est-ce qu'on sait dans quel collège il a fait ses classes? Bon, il y a quand même pas mal de collèges.
Alors ici, des noms d'instituteurs qui s'entendaient bien ou pas bien. Alors je pense qu'on pourrait après situer le collège. Il parle d'un certain Gabrel, qui deviendra plus tard professeur à l'école de commerce Neuchâtel. Il parle de différents profs, où il maintiendra des contacts encore plus tard, quand il sera fou, puis où il aura une correspondance avec un ou deux profs qui l'ont soutenu et puis qui ont fait qu'il est devenu Émile Gnem.
L'air de jeu, avec Claire et Florian.
Nous sommes toujours avec Dimitri Viglietti pour évoquer donc le locle au 19e siècle au travers du manuscrit et du récit d'Émile Gnem, Les tribulations d'un loclois. Alors, il y a aussi un bâtiment au Locle qui est très connu. Bon, il y a l'ancienne poste, il y a le temple, enfin, il y a plein de bâtiments anciens qui parlent au Loclois. Et puis, il y en a un aussi qui est situé à la rue de la Côte, c'est la Croix d'Or. Alors, je crois qu'il n'y a plus tellement d'activité maintenant, mais à l'époque, eh bien, justement, la famille Gnem a eu cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire?
Donc, arrivant de Suisse alémanique, étant maître tonnelier, Émile Gnem père, ou senior, voilà, a ouvert un commerce de tonnelier et il exportait de la bière de Reifenden. Et puis, il cherchait, d'abord, il a exercé son métier vers l'hôtel-restaurant de la Poste. Et ensuite, les locaux n'étaient pas appropriés à ces deux activités. Et ils ont repris la Croix d'Or, mais ancienne Croix d'Or, en fait. J'ai appris qu'il y avait eu deux Croix d'Or. Une première Croix d'Or qui a brûlé vers 1870, j'imagine, ou voilà, au milieu du 19e siècle. Et la nouvelle Croix d'Or, celle qui nous intéresse aujourd'hui.
À la rue de la Côte. Hein,
à la rue de la Côte, voilà. Et puis, il fallait imaginer qu'à l'époque, la rue de la Côte, rue de France, en fait, il y a passablement de passages import-export depuis la France. Et puis là, il a senti en disant, je vais me positionner là pour mon commerce de bière. Je ne suis pas loin de la gare, avec les tonneaux de bière qui arrivent de Rheinfelden. Et ensuite, pour les voyageurs qui vont sur France ou qui arrivent de France, je vais ouvrir un hôtel-restaurant et un débit de boisson, et je vais faire mes tonneaux au sous-sol. Et puis, voilà, l'aventure de la Croix d'Or a commencé vers 1880-82, et puis le père Émile Gnem a exercé, jusqu'à son décès précocement en 1905, son travail de tonnelier. Et sa femme tenait le restaurant et l'hôtel.
Katharina,
voilà. Quand vous allez diffuser la photo. Et puis, avec les cinq enfants qui couraient par-ci, par-là, et les garçons qui donnaient un coup de main au père dans le métier de tonnelier et d'aller, après l'école, livrer la bière aux différentes personnes qui en faisaient l'acquisition. Et les filles, elles n'étaient pas en reste. Après l'école, elles donnaient un coup de main à la maman, à la cuisine, faire les chambres, etc. Donc, c'était vraiment un travail familial.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Bonjour Marlène.
Bonjour Marlène.
Alors.
Bonjour Marlène.
Bonjour Monsieur Dimitri.
Oui.
Voilà.
Marlène, vous êtes une ancienne locloise. Vous êtes maintenant au Val-de-Rue. Alors, vous avez passé pas mal d'années dans la mère commune.
Alors, j'ai déjà fait toute ma scolarité au Locle.
Mm-hmm.
J'ai habité quelques années à l'ours de. Au Biode.
Oui.
Donc, quand au Biode, je faisais les trajets avec. Ça me rappelle des souvenirs. Il y avait. Ça s'appelait l'asile des Biodes. Vous avez une trace de cet asile. C'était.
Oui.
Voilà. Alors, c'était des jeunes qui étaient dans cet asile des Biodes, qui avaient souvent plus de parents.
Ça existait longtemps, ça, encore après. Moi, j'ai connu.
Oui, mais ça... Oui.
Je n'y suis pas allé, mais j'ai connu des gens qui étaient aux Biodes.
Mais ça existe encore, les Biodes.
Oui, oui.
Alors, c'est la résidence.
C'est la résidence,
alors, je ne sais pas si c'est toujours un asile. Je suis curieuse, justement, de savoir ce qu'est devenu ce bâtiment. Parce que c'était un beau bâtiment, je m'en rappelle. Et puis, les enfants qui étaient scolarisés dans l'école traditionnelle.
Et vous étiez dans quel collège, Marlène?
J'ai fait le collège Daniel-Jean-Richard, en fait.
D'accord.
Qui a, Là, j'ai fait mes premières années d'école primaire. Mm-hmm. Et ensuite, on appelait ça le grand collège.
À Beaucite.
Le collège de Beaucite. Voilà.
Voilà. Eh bien, justement, on va voir si vous avez encore quelques souvenirs sur le Locle avec ce jeu.
L'air de jeu, culture générale.
Et oui, ce sont des questions qui ont rapport avec le Locle. Et vous allez jouer pour un bon d'une valeur de 50 francs à faire valoir au centre santé La Fabrique à Champagne. Est-ce que vous êtes prête, Marlène?
Oui, j'essaye, j'ai rien à perdre.
Voilà, vous avez tout à gagner. Quel voilà. poète et conteur danois a séjourné trois fois au Locle, à la rue du Crévaillon?
À la rue du Crévaillon, ouh là là.
Un conteur danois qui a, qui a notamment écrit La Petite Sirène ou Le Vilain Petit Canard.
Ah j'ai lu ça, mais je ne sais plus l'auteur. Je ne peux pas vous dire.
Comment elle est surnommée, la ville du Locle?
Comment est-ce qu'on disait le Locle, le trou, le...
Non.
Ça, c'est moi qui dis ça.
Ça, c'est Florian. Alors, on passe à la dernière question. Quel horloger né à La Sagne est considéré comme le fondateur de l'industrie horlogère dans le Jura?
Ah, ça, je devrais savoir.
Ben oui.
Et voilà.
Il y a sa statue devant...
De Daniel Jean-Richard.
Oui, effectivement.
Ah, sauvé l'honneur.
Jean-Richard. Voilà, vous avez sauvé l'honneur.
Voilà, vous allez... Il y a sa statue à la rue Daniel Jean-Richard.
Et vous allez vous en mordre les doigts, je pense, Marlène, parce que le poète et conteur danois qui a séjourné trois fois au Locle à la rue du Crévaillon, c'est Hans Christian Andersen.
Oh,
oui. Mais
bien
oui,
sûr,
hein, la petite sirène, le vilain petit canard.
Ouais, voilà, mais c'est clair.
Mais oui, c'est clair. Ensuite, comment est surnommée la ville du Locle? On l'a dit plusieurs fois ce matin, c'est la mer commune.
Ah, la mer commune. Oui, ben, pourtant, je le sais, mais j'ai cherché trop loin.
Mais oui, mais en tout cas...
Voilà. On change ça aujourd'hui, qu'on appelle ça la grand-mère commune maintenant.
La grand-mère commune, voilà.
On a eu le plaisir de vous avoir avec nous, Marlène, et on vous souhaite une bonne suite de dimanche, et puis à bientôt.
Oui, à bientôt. On va se croiser, Monsieur Villetti.
Mais oui.
Très bien. Merci.
Merci. Au revoir, Marlène.
Félicitations pour votre émission. C'est super.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Marlène. Merci. Bon dimanche.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Toujours avec notre invité Dimitri Villetti, qui est passionné par l'histoire. Il est autodidacte. Hein. Il aime justement se plonger dans le passé. Et puis là, j'aimerais bien qu'on évoque le Locle et l'électricité, parce que là aussi, c'est un chapitre qu'il évoque.
Mais Émile Gnem nous parle aussi de la technique. Hein. Il évoque l'éclairage, l'aviation... Le cyclisme, les voitures, meeting des éplatures, meeting à Payerne, de l'aviation. Et puis, si on se recentre sur l'éclairage, ben, il nous rappelle qu'au Locle, mais ailleurs, dans les montagnes neuchâteloises, voire en Suisse, ben, on s'éclairait à la lampe à pétrole vers 1870. Puis après, on est venu avec les usines à gaz où le Locle, comme la Chaux-de-Fonds Neuchâtel, ont eu leur éclairage à gaz. Jusqu'à ce qu'arrive à la fin, vers 1895, l'électricité, la fée électrique a fait son arrivée, notamment au Locle. Et puis à ce moment-là, on construit des usines électriques. Et puis si on se concentre au Locle, c'est là la fameuse rançonnière où il en parle et où il va se balader aussi les... Il est pris de techniques, il est curieux, Émile Gnem, en fait. C'est un curieux qui nous fait envie de découvrir ces naissances de techniques. Et il nous raconte le moulin Calam, l'usine à Moron, qui amène pour l'industrie horlogère, justement, l'électricité qui pourra faire en sorte que cet essor horloger puisse se faire sur les montagnes neuchâteloises, la Chaux-de-Fonds et le Locle en particulier.
Pour revenir sur les luminaires à gaz, je crois savoir de mémoire qu'il y avait un métier qui était allumeur de lampadaires dans les rues pour aller allumer les luminaires. Parce que quand le gaz arrive, ça ne s'allume pas tout seul.
Tout à fait, oui. Alors, ayant été dans le gaz dans mes jeunes années, effectivement, j'avais découvert ça. Il y avait des gens qui allumaient, il y avait même des gens qui faisaient les guets la nuit dans les villes pour voir si au moins les lampes à gaz étaient bien éteintes pour éviter des explosions, en fait.
Oui. Et puis, il évoque aussi le col des Roches. Il y a des photos où on voit le col des Roches. C'est assez impressionnant aussi.
Tout à fait. Il aime bien se balader au col des Roches. Et c'est des gens qui marchent beaucoup, en fait, à cette époque. C'est toute une génération. Émile Gnem, va un jour, il part un dimanche matin à 5h du matin, puis il va se baigner au bord du lac Neuchâtel et il remonte à pied. Forcément, il va depuis chez lui régulièrement sur Morteau, Villers-le-Lac, à Pouyrel ou autre. Mais c'est commun, en fait.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et nous avons avec nous pour jouer Jean qui habite à Beaume. Tout s'est bien passé, vous avez passé de belles fêtes?
De belles fêtes, oui, hier soir on avait encore un truc, donc ce matin il ne faut pas trop me demander quelque chose de difficile. Hein.
Ouais. Surtout qu'ils ont des bonnes choses dans le canton de Vaud, ça c'est vrai.
Oui, effectivement.
Absolument.
Est-ce que vous avez déjà des projets ou vous vous réjouissez de quelque chose qui va se passer cette année en 2025?
Cette année, mes projets. Oui, je vais aller en Espagne au mois de mars. Et puis mon bonheur de tous les jours, c'est mes trois petites filles.
Ah, ça c'est le plus grand des bonheurs.
Exactement.
Et peut-être le bonheur pour vous de gagner une carte cadeau avec ce jeu.
L'air de jeu, qui suis-je?
Il faudra deviner et trouver une personne. Et vous gagnez, si vous me donnez la bonne réponse, un bon d'une valeur de 50 francs à faire valoir au centre santé La Fabrique à Champagne. Et sauf erreur, ça doit être tout proche de chez vous.
C'est effectivement tout proche, à peine 10 kilomètres. Donc, je connais la fabrique à champagne, je connais le fitness, voilà.
Vous êtes prêt à jouer avec nous, Jean?
Allez, on l'a tout.
Alors, c'est parti. Je suis un scientifique et un industriel américain et un inventeur prolifique avec plus de 1000 brevets. Je suis un pionnier de l'électricité. En 1879, j'ai présenté mon prototype de l'ampoule électrique. Une invention qui a révolutionné le monde entier. Qui suis-je?
Comme en plus, je suis électricien.
Oui.
Je devrais savoir.
Il me semble.
Essayons avec Edison.
Mais oui, c'est Thomas Edison.
C'est Thomas Edison?
Oui, c'est Thomas Edison. Ah là là.
Ça aurait été la honte comme électricien de ne pas sortir. Hein.
Effectivement.
J'ai dû chercher, ouais.
Alors c'est bien, vous avez fouillé dans votre mémoire et vous nous avez donné le bon nom. Eh bien, bravo, ouais, bravo, beau. Bravo Jean, on vous souhaite un bon dimanche. Et puis,
dimanche.
Merci d'avoir joué avec nous.
Tout bon à vous.
Bonne suite de journée.
Bonne année à toute l'équipe et à tout le monde.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Toujours avec notre invité Dimitri Viglietti pour évoquer un petit peu le passé et se plonger dans l'histoire du 19e siècle au Locle, hein, puisqu'on évoque Émile Gnem et la vie qu'il a passée dans la mer commune. Vous avez par exemple des prix de vente, des prix de différentes choses. On est à quelle époque à peu près là?
1910, je l'évoque dans le livre, j'avais retrouvé les prix à la Croix d'Or, où une soupe était vendue 10 centimes, un morceau de viande 30 centimes, le café au lait 10 centimes. Et le dessert, 10 centimes. On voit, il nous évoque, c'est dingue, pour dire que le récit est fouillé. Par exemple, il dit, en Suisse, avec 50 centimes en 1905, on achetait du pain, un cervelas, une chope. Voilà, on allait avec 50 centimes et puis on se faisait un petit repas, un petit casse-croûte.
Mais aussi, qu'est-ce qu'ils gagnaient les gens à cette époque?
Voilà, ils gagnaient. On voit une femme de ménage en travaillant 15 heures par jour gagne 1,20 francs, 1,50 francs. Et ça, pour lui, ça va l'amener à à un autre combat qui est évoqué dans le livre, contre les inégalités sociales, et puis fondera à Genève le premier syndicat des boulangers pâtissiers de Suisse romande, parce qu'ils avaient des conditions de travail qui étaient vraiment déplorables. Et puis ça, lui, il le supporte pas, parce qu'en fait, il a habitué avec sa famille au local. Quand il y a des gens qui sont dans le besoin, ils vont offrir des soupes, ils vont offrir un potage, ils vont offrir un gîte. Et puis ça, c'est connu à la fin du 19e siècle, chez les Gnèmes, au local, à la Croix d'Or, en fait, on ne laisse pas les gens dehors. Et puis ça, toute sa vie, il va le garder. Quand il aura l'hôtel du Cerf à Fou, il va offrir des chambres à des prix modestes pour les familles de Suisse romande et notamment de la Chaux-de-Fonds du local, pour qu'ils puissent passer des vacances au bord du lac de Mora à des prix. Il est pris. Il nous dit, par exemple, le vélo arrive en 1900, tenez-vous bien, un vélo est entre 500 et 600 francs.
Ils doivent travailler longtemps. Hein.
C'est pour dire, c'est vraiment un luxe. Donc, en fait, on prête pour les premières courses de vélo à la Chaux-de-Fonds, on met à disposition des vélos, les marques. Les gens ne disposent pas de vélo. Qui a 600 francs? Oui, des gens fortunés, les gens, voilà. Mais sinon, les gens comme vous et moi, à l'époque, on n'aurait pas pu s'offrir un vélo.
Et comme, par exemple, vous avez aussi, là, c'est assez impressionnant, ce manuscrit, c'est l'inventaire...
Un fou, donc il reprend, en 1924, c'est un restaurant ferme à Fou. Qui viendra après un hôtel-restaurant. Et puis là, y a un inventaire de cuisine qui est vraiment incroyable, détaillé. Une boîte à sel en porcelaine à 2 francs, un coffret à bois à 2 francs, un lèche-frite à 15 francs. Ouais, c'est même pas cher. Un potager, donc potager, c'est un...
On voit à la fin, Dimitri, le total de la valeur
avec les chambres, parce qu'il y a un petit hôtel dans cette ferme restaurant-hôtel. En fait, pour 15 000 francs, on a un tout. On a 5 chambres équipées, une salle, un jeu de quilles, plus un restaurant. 15 000 francs, c'est l'inventaire total.
Mais je pense que ça se fait toujours, encore à l'heure actuelle, d'avoir un tel inventaire lorsque l'on vend quelque chose à un établissement.
C'est une nécessité, vu que je suis aussi un peu dans le métier. C'est une nécessité d'avoir ces inventaires pour valoriser justement un petit peu le matériel que vous avez. Donc, le fait de la liste, ça ne me surprend pas. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on ne fait plus, c'est valoriser forcément les objets. On estime une valeur totale. Mais là, par contre, c'est vrai, c'est époustouflant le détail qu'il peut y avoir sur cette liste avec tous ces objets à 2 ou 3 francs.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Dimitri Viglietti, qui est passionné d'histoire, qui est autodidacte, qui a déjà écrit plusieurs livres, là revient avec les tribulations d'un loclois. Il s'est basé sur les écrits et le manuscrit d'Émile Gnème pour évoquer un petit peu cette histoire de ce loclois qui a été boulanger. Et puis, on était un petit peu dans les chiffres tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a encore qui vous a surpris quand vous avez rédigé ce livre, Dimitri?
Surpris de voir, il a fait beaucoup de ses découvertes à pied. Comme on parlait avant, il allait se baigner au bord du lac en partant du local, mais il allait également avec sa famille voir une exposition à Yverdon à pied, en passant par le Val de Travers et recoupant les montagnes. Donc pour eux, à pied, c'était évident. Donc il a fait après sa découverte de Suisse majoritairement à pied comme compagnon boulanger. Et c'est un peu un Nicolas Bouvier du début du XXe siècle où il décrit cette Suisse qui évolue. En parlant de prix, il nous raconte un peu la vie à l'époque en Suisse alémanique, dans le canton de Fribourg, Payerne, Avenches, Genève, où vraiment on voit c'est début de l'industrialisation. Ce qui m'a étonné, on traversait les frontières, pas de passeport, pas de papier, rien. En fait, il a été surpris en 14. Il se retrouvait à Morteau chez un ami à boire une bière et tout d'un coup, on lui a dit « C'est bizarre, on nous annonce quelque chose au centre du village. » c'est la mobilisation. Puis lui, on dit, mais il faut tout de suite que tu partes parce qu'ils vont fermer les frontières. Puis lui, bah, il a pris un chemin avec un copain français qui lui a montré bah, un chemin pour arriver au Locle le plus rapidement possible. Et dès ce moment-là, il y a eu des passeports, il y a eu des pièces d'identité. Ça m'a étonné de dire, bah, c'est assez récent en fait. Qu'est-ce qui m'a étonné, c'est bah, il nous raconte justement, bah, il est mobilisé en 14-18, il nous raconte cette mobilisation vue du bas, vue d'un soldat, sous-officier, il est dans les cuisines forcément, il est boulanger, il a un restaurant, bah, il raconte aussi bah, une autre facette de la guerre 14-18 côté cuisine en fait. Il nous raconte plein d'éléments touchants bah, de sa vision de la société qui évolue, on voit bah, il est très progressiste à un moment donné, puis après bah, il est submergé par cette modernisation qu'il voit apparaître au début des années 60. Et puis là, on a de la peine à le reconnaître, mais c'est Emil Gnem, il va être franc, il va être clair avec lui, et pour lui, la justice sociale prend vraiment de l'ampleur, et c'est touchant en fait. Son récit va droit au but, en fait. Il ne cherche pas à enjoliver les choses. Et puis, il nous refait ressurgir des choses que moi, je n'avais aucune idée. Quand on parle de la valeur des choses, il dit toujours en parlant de 14-18, quand la déclaration de guerre, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévalisent tous les commerces du Locle. On ne trouve plus rien deux jours plus tard. Il n'y a plus à grainerie. Et puis, il n'y a plus de monnaie. Il n'y a plus. Parce qu'en fait, la monnaie en Suisse, c'était des pièces en argent. Si les plus anciens s'en rappellent, on avait des pièces d'argent. Donc, en fait, toutes les valeurs. Donc, il n'y a plus de monnaie et il n'y a plus rien dans les magasins. Et puis, à ce moment-là, la Banque nationale va profiter d'éditer des billets, en fait, où la valeur sera différente que ces pièces d'argent. Donc, il nous raconte une foule de petits détails. Où on voyage, comme je dis, à travers cette Suisse, à travers la Suisse romande. C'est pour ça que c'est un livre qui est lu autant à Payerne qu'à Genève et qu'au Locle. Et puis, on voit cette vie du Locle aussi qui change. Il raconte 1870 quand ses parents arrivent. C'est les Bourbaki qui sont réfugiés au Locle. C'est une vie rude, une vie où les gens vivent quasi en autarcie, mais c'est pas qu'au Locle, c'est un fait. Moi, je l'ai vu en écrivant d'autres choses. Même des petits villages de 200 habitants où il y a comme un fou, il va vivre. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre sans aller à l'extérieur. C'est le cas au Locle, où en plus au Locle, on a une industrie naissante, on a besoin de main-d'œuvre qui arrive en fait, des émigrés, mais c'est des émigrés de Suisse alémanique, c'est pas des émigrés d'Italie, de France ou d'Allemagne ou d'Espagne. Donc en fait, on voit tout ce changement sociétal qui est assez
ça, c'était dû à l'horlogerie aussi.
C'était dû à l'horlogerie.
10h, midi, envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et puis on a Patricia qui est avec nous. Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia.
Oui, bonjour Claire.
Vous allez bien?
Ah oui, très bien, très bien. Je suis très heureuse de vous avoir à l'antenne.
On est très contents de vous avoir.
Oui, parce qu'il faut dire qu'elle a joué plein de fois, puis elle n'a jamais gagné. Puis là, ce coup-ci, aujourd'hui,
exactement.
C'est votre jour.
Voilà, c'est mon jour.
Bravo.
C'est parfait.
Décrivez-nous la photo que vous avez envoyée, Patricia.
Alors oui, ça c'est un chauffe-plat en fonte que j'ai hérité de ma marraine qui était antiquaire et elle avait plein d'objets et j'ai récupéré le maximum, que ce soit les meubles ou etc. parce que j'adore ça, j'adore les antiquités et j'ai plein de souvenirs.
Vous avez aussi récupéré le fameux Laura Star d'époque là où on mettait les cendres dedans?
Exactement, j'en ai deux, oui. Oui, non, mais j'ai plein de choses, quoi. C'est
qu'est-ce qu'il y a comme objet, justement, ancien, que vous appréciez vraiment?
Alors, j'ai des petits fourneaux en fonte où on pouvait chauffer. Hein. C'était vraiment des mini où on peut mettre... mais c'était extraordinaire, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu avec quatre pieds et puis on pouvait mettre une casserole dessus. Mais c'était tout petit.
Mmh.
Ouais.
Ah ouais, non, mais il y avait des trucs...
C'était carrelé ou tour, quelque chose comme ça, décoré assez joliment?
Non, pas du tout. Alors, Non, c'était tout de la fonte. Mm-hmm. Et puis, toutes des petites choses comme ça que j'ai dans mon appartement comme décoration.
Et puis, l'objet que vous nous avez envoyé, c'est quoi exactement?
Alors, c'est un chauffe-plat. Alors, moi, je l'ai en décoration comme ça et je le sors de temps en temps quand j'ai des amis. Je mets des bougies de réchaud et puis ça tient quand même un petit peu chaud. J'ai mis un petit peu avant. C'est génial, je mets mon petit plat, ça fait une belle décoration de table.
Oui, à l'époque, on mettait des cendres, de la braise dedans.
Oui, tout à fait. Ça, normalement, je ne vais pas m'attaquer à ça, mais effectivement.
Non, parce qu'il fallait avoir la cheminée qui va avec, prendre la braise, ouais, ouais. Mettre dans le chauffe-plat.
Mais en tout cas, on vous remercie infiniment, Patricia, de nous avoir envoyé cette photo. Merci. Et puis, vous allez recevoir un bon cadeau de 30 francs à faire valoir chez Preneige à Butte. Merci pour votre photo. On remercie bien évidemment toutes les personnes qui nous ont envoyé des photos pour le défi.
Oui.
Toutes ces photos, vous les découvrirez cet après-midi sur notre galerie photo sur rtn.ch.
Alors merci,
bonne
journée à tous.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Jusqu'à midi, l'heure de jeu.
L'histoire passionnante de notre région.
Oui, le Locle vu par Émile Gnem. Oui, c'était impressionnant quand même de voir ce manuscrit qu'il a rédigé. Ça a été un beau travail pour vous, j'imagine. Et quelle satisfaction vous en tirez maintenant?
C'est les petits témoignages des gens qui le lisent, qui l'apprécient. Des petites cartes, des petits mots, ça fait chaud au cœur. Et se dire, ben, c'est vrai que c'est une histoire qui a une connotation ouverte, c'est des propos qui sonnent vraiment, qui sont même d'actualité sur ce qu'il évoque. Ben, il met là, en ce début de février 71, je rentre dans ma 90e année, lorsqu'il y a une quarantaine d'années, j'entreprenais de transcrire dans ce document une rétrospective et mes souvenirs, qui à futur pourraient vous intéresser, bouclerait une période de 100 ans. Je n'y aurais jamais pensé, et cependant ce siècle est accompli. J'espère que vous saurez le conserver, mon manuscrit, et le transmettre. Ces dernières lignes, en fait, qu'il écrit. Et puis, ben, c'est vrai que moi, ça m'a touché, parce que ben, je ne l'ai pas connu, forcément. Cet écrit-là me touche, chaque écrit me touche. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui fait qu'on est passionné.